France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui sur Kandinsky et la mystique orthodoxe, en compagnie de Philippe Serres, philosophe, critique d'art et auteur, entre autres, d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Première Partie, regroupant deux textes de Kandinsky, du spirituel dans l'art et du matériel dans l'art. Philippe Serres, bonjour.
Bonjour, cher Alexis.
Vous avez choisi d'intituler cette deuxième émission sur Kandinsky et la mystique orthodoxe une œuvre d'art totale dont le modèle est liturgique. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, pourquoi ? Qu'en est-il au fait ?
Alors, c'est l'idée de Kandinsky et également l'idée de Florensky. C'est-à-dire que le modèle absolu de l'œuvre d'art totale, c'est la liturgie. Ça nous renvoie directement à Nicée II. C'est-à-dire que le mystère s'exprime...
Pardon, juste un mot pour dire que Nicée II est le concile qui a promulgué la théologie de l'image, tenue en 787, et que c'est le texte fondamental pour accueillir et faire de l'icône ce qu'elle a été dans la tradition, surtout de l'Église byzantine, même si ce concile est également reçu par l'Église de Rome.
C'est le dernier, d'ailleurs, le septième concile œcuménique. On a une icône que Kandinsky aimait beaucoup, qui représente les sept conciles œcuméniques et le festin de la sagesse, dont il se servait pour ses démonstrations auprès de ses étudiants. Donc l'idée que texte et image se complètent, alors ça va très très loin, parce que quand on parle du texte, on parle également de la mélodie. Texte et image se complètent, c'est-à-dire non seulement le texte de Nicée II dit que prédication et image se complètent l'une l'autre, se renvoient l'une à l'autre, s'expliquent l'une par l'autre. C'est cette formulation extrêmement intrigante qui nous oblige à creuser ce rapport entre la poésie, l'image et la musique. Et alors nous nous apercevons que nous sommes en présence des arts qui mettent en jeu les sensations à distance, puisque l'objet est obligatoirement éloigné dans la vue et dans l'ouïe. Pour Kandinsky, l'œuvre d'art, il faut le rappeler, est à la fois l'objectivation et le support de l'expérience spirituelle. C'est-à-dire que l'artiste témoigne son expérience spirituelle, ou témoigne de l'expérience spirituelle des mystiques, et en même temps, son œuvre, dans l'icône, devient le support de la prière, donc d'une nouvelle expérience spirituelle. Et la synthèse des arts, c'est-à-dire la synthèse entre peinture, poésie et musique, trouve son sens dans la représentation du mystère, et tout particulièrement du mystère chrétien. C'est donc à la fois un instrument de conversion et un itinéraire transformateur. Les deux grandes questions que nous allons nous poser, c'est comment Kandinsky expérimente-t-il cette rencontre entre peinture, poésie et musique ? Et la deuxième question, c'est évidemment quel est le rôle de la peinture, de la poésie et de la musique dans cette rencontre ? Kandinsky s'est préoccupé de la rencontre entre la peinture et la musique, au départ en incluant la danse. Nous sommes en 1908, et à ce moment-là, il présente des aquarelles à son ami musicien Thomas Hartmann, et il a convoqué un danseur qui est Sakharov. Et il présente les aquarelles à Hartmann en l'absence de Sakharov, qui, Hartmann, compose une musique sur ses aquarelles, puis ensuite on fait entrer Sakharov, qui danse sur la musique et qui désigne l'aquarelle qu'il a interprétée. Ça, c'est le premier point. La deuxième étape, on pourrait dire, c'est le moment où Kandinsky va définir des correspondances entre les couleurs et les hauteurs musicales. Vous voyez, l'exposition d'ailleurs Kandinsky à la musique nous permet de réfléchir encore à cette question.
C'est l'exposition qui a lieu actuellement à la Philharmonie
voilà.
De Paris.
Oui. Alors, cette correspondance, nous sommes en 1909. Là, ce sont les auteurs musicales, comme par exemple dans sa composition scénique « Résonance jaune ». Puis ensuite, il va passer au timbre. Dans du spirituel, dans l'art, il parle des timbres des instruments. La trompette, le jaune, etc., le violon, le bleu, en fait, tout. Texte magnifique d'ailleurs, parce que Kandinsky a un langage, on pourrait dire, fruité, poétique, vous voyez. Et correspondance entre les hauteurs musicales et les couleurs. Ensuite, à peu près à la même époque, c'est du spirituel, donc imprimé en 1911, et la composition scénique violée. Et puis, ensuite, en 1926, Kandinsky, avec l'aide du musicien Franz von Hösslin, va travailler sur la dynamique des formes, la correspondance entre la dynamique des formes et les morceaux de musique. Par exemple, avec la 5e symphonie de Beethoven, mais aussi avec la danse de Palooka. Et enfin, vers la fin de sa vie, il revient à l'intériorisation qui était là au début, en 1908. C'est le magnifique tableau d'une exposition avec son musicien préféré qui était Moussorgski. Alors il faut rappeler que Moussorgski a composé les tableaux d'une exposition après la mort du peintre Hartmann, peintre et architecte, qui était l'oncle de Thomas, le musicien. Et après la mort, donc vous avez cette promenade entre le murmure de souffrance et la jubilation. Murmure quand il pense à son ami mort et jubilation quand il est devant la beauté des tableaux. Et là, il accomplit Saint-Augustin. Et donc, la musique de Moussorgski correspondait à des tableaux de Hartmann et Kandinsky, c'est une transcription si vous voulez. Kandinsky va procéder à une deuxième transcription qui est une sorte d'expérience experimentum crucis, si vous voulez, une expérience croisée, et parce que puisqu'il va transcrire la musique en peinture, et ça va nous donner sa série des tableaux d'une exposition très intéressante à voir dans l'exposition. Voilà, c'est-à-dire que là, nous sommes revenus à l'intériorisation. Alors, on peut dire que cette correspondance peinture et musique est liée à la fois à leur résonance intérieure et à leur fonction spécifique.
Alors, nous faisons maintenant notre pause musicale. Évidemment, c'est du Moussorgski. Évidemment, ce sont les tableaux d'une exposition. Un court extrait, Les Jeux d'enfants, par Daniel Ciobanu, pianiste. Et après ce court extrait des tableaux d'une exposition de Moussorgski, artiste qui était lié, qui inspirait surtout beaucoup Kandinsky, nous revenons à notre conversation avec Philippe Serres sur cet artiste que nous connaissons tous comme le père de l'art abstrait et qui est dévoilé ici comme quelqu'un qui est imprégné vraiment de mystique orthodoxe. Et dans le livre qui vient de paraître, Philippe Serres, je lis à propos de la relation entre Kandinsky et Moussorgski. Dans les tableaux d'une exposition, dit Kandinsky, l'œuvre comprend 16 tableaux qui traduisent les impressions ressenties par Moussorgski dans une exposition de peinture. Ces peintures étaient bien entendu naturalistes, vraisemblablement à l'exclusion des aquarelles. Mais cela n'a nullement donné une musique de programme, parce qu'il n'aimait pas la musique à programme. Si la musique reflète quelque chose, ce ne sont pas les petits tableautins, mais l'événement vécu par Moussorgski, qui dépassa largement le contenu pictural pour trouver une forme purement musicale. Voilà. Et puis, vous en reparlez, lui aussi, plus tard, dans un chapitre qui s'intitule « Jubilation ». Hein, de nouveau. Donc voilà l'inspiration qui vient de là. Alors je voudrais quelques mots maintenant, si vous voulez bien, sur le rôle de l'artiste dans tout ça. Je ne sais pas si on peut dire l'artiste est Dieu. Est-ce qu'il y a E.T.
Hein, l'artiste est prophète, c'est-à-dire il parle au nom de Dieu et il y a une mystérieuse participation dans son œuvre à la création divine. Pour cela, évidemment, il faut mettre en jeu la résonance intérieure, mais également le message chrétien. Parce que pour Kandinsky, le passage à la loi, de la loi extérieure, c'est-à-dire la loi de Moïse, à la loi intérieure, c'est-à-dire la loi des béatitudes, c'est la mise en harmonie du monde. Et c'est pour ça que j'ai centré mon texte sur la question de l'harmonie intérieure. Alors, la peinture, la poésie et la musique interviennent là-dedans, dans cette intention, pour actualiser le message chrétien. Et la peinture et la poésie ont quelque chose en commun, et la musique et la poésie ont quelque chose en commun. Mais pour passer de la peinture à la musique, il faut passer par cette intériorisation que j'ai évoquée tout à l'heure. Pourquoi ce quelque chose en commun, dans un sens et dans l'autre, et pas dans le troisième ? Parce que la peinture et la poésie parcourt le champ de la création, en quelque sorte les images, si vous voulez, du profane au sacré. Tandis que la poésie et la musique, et là la poésie joue double jeu, si vous voulez, la poésie et la musique évoluent entre le murmure plaintif et l'éclatante jubilation. On peut dire ici que nous avons un passage harmonique du lyrique au dramatique. La signification profonde de la jubilation et de la plainte est confirmée par l'art et elle est déployée dans la synthèse des arts. C'est-à-dire que là, il va y avoir, si vous voulez, trois niveaux. Et ça, c'est très important pour la culture de notre époque, parce que la culture, pour Kandinsky, comme pour Florensky, comme pour l'âge d'argent, comme pour la mystique Hésychaste, la Philokalie, la culture, c'est l'éducation de l'âme. C'est-à-dire, il s'agit de conduire l'âme au plus haut niveau pour qu'elle puisse atteindre ce lieu de l'unité de l'humain et du divin pour lequel l'art constitue un marchepied. Alors, Kandinsky constate qu'il y a l'harmonie simple, il évoque Mozart, et puis les harmonies contrastées sont les harmonies dramatiques qui mettent en jeu, si vous voulez, la confrontation, on dirait apocalyptique, hein. C'est-à-dire le drame du salut, quoi. Elle utilise en allemand, d'ailleurs, c'est très curieux, parce qu'il dit Einklang, Doppelklang et Dreiklang. Hein. Ce qui est intéressant, enfin, j'en parle et j'analyse pourquoi dans le livre. Donc, il y a une harmonie simple, une harmonie contrastée et une harmonie triple. Alors, ça conduit, si vous voulez, ça à l'idée qu'il y a une harmonie lyrique, Mozart, etc., c'est-à-dire le chant pur, une harmonie dramatique contrastée, et alors là, il la met en œuvre dans ses peintures, ce que j'ai montré dans la série des images qui résument son message chrétien pictural. Donc, il y a une harmonie lyrique, une harmonie dramatique et une harmonie apocalyptique, où la vérité, on pourrait dire, est tressée. C'est-à-dire que les forces du bien et les forces du mal confrontées dans le dévoilement apocalyptique sont transcendées par la voie du salut, c'est-à-dire par l'incarnation christique. Et alors là vient évidemment toute la problématique de l'incarnation qu'on va retrouver dans du matériel dans l'art, où il explique que le plaisir matériel est un entonnoir vers le plaisir spirituel. Ce qui se retrouve, dans d'autres termes, chez saint Augustin.
Alors, en vous écoutant, il y a quelques jours, parler de lui, vous avez fait une présentation de votre livre dans une librairie connue de Paris, et vous avez dit qu'Kandinsky est un scientifique. Pourquoi vous dites ça ?
Alors, parce que sa méthode est quasiment une méthode expérimentale. On est pratiquement chez Claude Bernard, et il procède, si vous voulez, en trois étapes, qui correspondent à peu près à l'hypothèse, l'observation, l'hypothèse et l'expérimentation. C'est l'impression, l'improvisation et la composition. L'impression, c'est le spectacle du monde extérieur, par exemple l'orage, hein, ou le coucher de soleil. L'improvisation, c'est le spectacle du monde intérieur, qui est le monde du rêve, le monde de l'inspiration, voire du délire. Et la composition, c'est la mise en équilibre des deux. Mise en équilibre des deux qui révèle leur sens. Mais également, il faut observer que dans son écriture, dans ses observations sur les couleurs, dans son histoire personnelle, et même dans la manière dont il raconte sa vie, ce sont les 9 expériences que j'ai mises en tableau dans mon introduction, Kandinsky est un scientifique. C'est-à-dire, c'est un chercheur de vérité qui utilise les instruments de vérification que procurent la logique et la science.
Alors, une autre question qui vient naturellement à l'esprit, c'est son rapport à l'icône traditionnelle. Il a dû en voir énormément depuis qu'il était tout petit, puis toute sa vie. Est-ce que c'est pour lui une source d'inspiration? Il y a des tableaux de lui qui vont vers l'icône, on dirait. Hein, bon.
Il a écrit des icônes. Il a écrit des icônes. L'icône, c'est le graphène, hein, ou pisat en russe, hein, ou xi en chinois, c'est-à-dire j'écris le verbe. Alors, Kandinsky a dit expressément, toute l'origine de mon art se trouve dans la peinture ancienne russe. La peinture ancienne russe, c'est l'icône. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, justement, nous avons toute la procédure de l'écriture de l'icône qui est résumée lorsqu'il raconte la manière dont il a peint, par exemple, la vieille file, où il se trouve à l'extérieur en train de faire des pochades de Rothenburg, et il rentre à l'hôtel où il était, et sous la pluie, et donc tout est délavé, et il ne reste plus rien. Et il repeint le tableau de mémoire. Ça signifie qu'il va passer par un accueil intérieur de la réalité extérieure. Et il va l'exprimer. Alors, c'est exactement la mystique de l'icône, c'est-à-dire l'iconographe reçoit la lumière du Christ dans son cœur et la fait rencontrer le modèle extérieur qu'il a dans l'art des maîtres. Et donc, à ce moment-là, l'art témoigne d'une expérience spirituelle et en constitue le support.
Merci beaucoup. Alors, comme nous allons vers la fin de cette émission, qui est la seconde, et évidemment, nous n'avons pas le temps de dire tout ce que vous auriez pu dire, Philippe Serres, je voudrais qu'on finisse par... Nous sommes à la radio, mais quand même, essayez de décrire un ou deux tableaux directement inspirés de la religion. Élie, par exemple, hein, on a Élie, on a la résurrection, il y a des thèmes très forts qui vont, qui reviennent, et que vous expliquez très bien. Alors, je saisis l'occasion pour dire que là où vous avez des tableaux qui sont présentés avec des commentaires, parfois vous avez à côté aussi un petit dessin qui explique exactement comment il faut lire le tableau de Kandinsky, ce qui est extrêmement parlant pour quelqu'un et édificateur, parce que on ne comprend pas autrement très bien, quand on ne connaît pas le langage de ce peintre, comment il fonctionne.
Alors, c'est fondamental parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'accueil du verbe. Mais l'accueil du verbe, c'est l'accueil de la vie. Et précisément, ces schémas montrent la dynamique de la vie dans le tableau. Alors, les plus impressionnants, évidemment, c'est la grande résurrection. C'est également l'enlèvement du prophète Élie au ciel dans un char de feu. Alors, bon, Élie, c'est le prophète par excellence, n'est-ce pas? Et il y a un tableau de Kandinsky qui est absolument merveilleux, là, sujet dont j'ai donné les thématiques. Puis la composition 2, où il y a une dynamique extraordinaire, puisque nous avons 4 scènes. La scène du témoignage, le prophète, la scène de l'Apocalypse, et puis la scène de la résurrection et la scène du paradis. Vous voyez, donc c'est, et puis la grande résurrection. Alors, et la Toussaint. La Toussaint qui est un très beau tableau, mais qui est un tableau décliné en plusieurs modes. C'est-à-dire en fixé sous verre et en peinture sur toile. Et ça, c'est intéressant parce que le fixé sous verre nous permet de regarder la peinture abstraite à l'envers, dans la mesure où dans le fixé sous verre, on commence par les détails et on termine par les taches de couleur. Et la peinture abstraite, si on la met à côté, nous montre exactement le même thème, mais décliné dans l'abstraction, c'est-à-dire en insistant sur le contenu intérieur. Et là, il y a toutes les formes de la sainteté. Bien sûr, il y a Saint-Nil, mais il y a Saint-Boris et Saint-Glèbe, il y a Saint-Vladimir. D'ailleurs, Kandinsky se représente lui-même en Saint-Vladimir, c'est-à-dire en Basileus, celui qui baptise la Rousse dans le Dniepr à Kiev. La vocation prophétique de l'artiste est fondamentale chez lui.
Écoutez, la conversation aurait pu durer très longtemps encore. Ce que vous dites est vraiment passionnant, mais vous nous aidez quand même à relire, à revoir un artiste qu'on croyait connaître ou que d'autres vont découvrir.
Et pour lui, l'art, c'est le langage de l'âme. Ce qu'il recherche, n'est-ce pas? C'est un peu ce que Schopenhauer définit dans la musique, c'est-à-dire le noumen. Au-delà du phénomène, donc, c'est ça l'abstraction, le noumen au-delà du phénomène, sur le plan visuel.
Écoutez, c'est merveilleux. Alors, j'espère que plusieurs de nos auditeurs vont avoir l'occasion de lire ce livre qui est très bien. Et d'ailleurs, c'est une très belle idée pour les cadeaux de Noël qui arrivent. C'était donc la deuxième émission, Kandinsky et la mystique orthodoxe. Cette partie était intitulée « Une œuvre d'art totale dont le modèle est liturgique ». Philippe Serce, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Première Partie, donc Kandinsky, avec deux textes dedans, un qu'on connaissait depuis longtemps et l'autre qui est édité ici pour la première fois. Je rappelle également l'exposition qui a lieu actuellement jusqu'au 1er février à la Philharmonie de Paris, Kandinsky, la musique des couleurs. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son, Inès De Bruyne. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau.